Nous allons contempler cet après-midi Jésus-Christ dans ce qu'on appelle la voie douloureuse. Vous avez eu cette conférence tout à l'heure et vous avez médité sur le sujet proposé. Conférence qui a porté sur la flagellation, le couronnement d'épines, et vous avez laissé Jésus-Christ aux mains des soldats qui l'ont revêtu d'un manteau de pourpre. Et après que les soldats se soient amusés, on peut dire, avec lui, odieusement amusés avec lui, Jésus-Christ va être ramené à Pilate, et Pilate a cherché jusque-là à relâcher Jésus d'une manière ou d'une autre, à se débarrasser d'une affaire qui commence à lui être pesante. Mais Pilate est un lâche. Pilate est vole. Pilate est pragmatiste, c'est-à-dire qu'il n'a pas de principe. Et il a tenté une opération. Lui aussi s'est amusé avec Jésus et les Juifs. Il a joué au plus malin et il va perdre. Et il va perdre aussi l'innocent. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Pilate va tenter donc plusieurs choses pour délivrer Jésus, alors qu'une parole aurait suffi. Il est le chef tout de même. Il a l'autorité. Il est le représentant de la puissance qui occupe la Palestine. Et ce faisant, il a comme tous les pouvoirs. Et les Juifs savent que Pilate a tous les pouvoirs sur le papier. Mais, hargneux comme ils sont, ils vont arriver à arracher à la justice, donc par l'injustice, Jésus, pour qu'il soit crucifié. Alors Pilate va alors montrer Jésus qui sort de la flagellation et qui est couronné d'épines. Et c'est Lecce Homo. Lecce Homo, image très célèbre. On le voit, le Seigneur, il est encore debout, c'est miraculeux, car souvent les suppliciés mouraient sous les coups de la flagellation romaine. Les bourreaux frappés sans limite de coup. La limite, c'était leur fatigue, ou la mort du supplicié, ce qui arrivait assez souvent. Bien si Jésus-Christ est encore en vie, après tout ce qu'il a subi dans cette chair si délicate, et souffrance accrue par la conscience qu'il a de ce qui se passe, et par la notion qu'il a du péché, notion divine, et parce qu'il veut souffrir jusqu'à l'extrême. Et donc Jésus-Christ, malgré ses sévices, est encore debout, et ça c'est miraculeux, il est vraiment Dieu. Son heure n'est pas encore venue. Alors Pilate va le montrer à la foule des Juifs, car il espère que les Juifs vont être enfin émus, et que ça va leur suffire. Ils ont eu Barabbas contre Jésus. Jésus vient d'être battu comme le dernier des Vauriens. Cela devrait leur suffire, mais non, cela ne leur suffit pas. Et Pilate est encore joué. Les Juifs en veulent plus. Ils en veulent plus. Et alors, pour obtenir plus, ils vont demander la crucifixion. Enlève-le, crucifie-le. Et pour obtenir cela de Pilate, ils vont enfin révéler la raison de leur hargne. Il s'est dit fils de Dieu. Enfin, la vraie raison, ce n'est plus la fausse raison, Jésus ayant été présenté comme un séditieux, comme quelqu'un qui semait le trouble, ce qui était absolument faux. La vraie raison, elle est religieuse. Ils se disent fils de Dieu, ils ne l'admettent pas. Ils le disent blasphémateur. Ils ont décidé, en raison de la loi, de sa mort, et ils veulent sa mort. Alors là, Pilate est touché. Il est touché. Car Pilate est un païen, et sans doute un superstitieux. Il est touché. Il se dit, alors, si le divin s'en mêle, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors il rentre avec Jésus, et il lui dit, mais n'entends-tu pas ce qu'ils disent? N'est-ce pas? Et ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et Jésus lui répond, ce pouvoir, tu ne l'as que par en haut, mais ceux qui te livrent à moi sont plus coupables que toi. Pilate veut encore relâcher Jésus, car vraiment, il n'a trouvé en lui aucun motif de condamnation et ce qu'il a fait subir, c'est déjà trop, c'est déjà injuste. Et les Juifs vont aller plus loin. Ils vont lui dire, il s'est dit roi, et c'est vrai. Donc, il se pose en concurrent à César. César n'admet pas d'autre qui s'opposerait à son pouvoir. Alors là, Pilate est encore plus touché, car il doit défendre l'autorité de César, et il sait que le César de l'époque est extrêmement cruel et qu'il emprisonne ou met à mort tous ceux qui sont dénoncés sans chercher de raison, sans faire d'enquête, tous ceux qui sont dénoncés comme mettant en danger son pouvoir de César romain ou comme le contestant. Alors Pilate craint pour son pouvoir, car s'il n'anéantit pas un concurrent au César, il participe à la faute du concurrent et lui-même mérite l'emprisonnement, la déchéance ou la mort. Alors Pilate l'a touché. Il est comme battu. Il est anéanti. C'est terminé. Les Juifs l'ont eu. Et il va leur livrer Jésus. Pilate a une femme qui s'appelle Procula. Et Procula va venir le voir et lui dire, j'ai eu un songe. Ne te mêle pas de cet homme. Laisse-le. Laisse-le. Les pères de l'Église se sont partagés et les commentateurs se sont partagés pour savoir comment interpréter cette intervention de Procula. Est-ce du diable? Est-ce du ciel? Peut-être est-ce du diable. Car le diable comprend là que si Jésus est livré et s'il meurt sur la croix, c'en est fini de son pouvoir à lui. Il est battu, lui, démon. La rédemption est accomplie. Maintenant qu'il a compris qu'il a affaire au Fils de Dieu, il veut arrêter le processus qu'il a lancé lui-même. Et c'est trop tard. D'autres pensent que c'est une inspiration du ciel et cela est offert à Pilate. Une dernière chance pour que Pilate réalise son rôle de justicier, de juste justicier. Et la tradition nous dit, vous lisez ça dans la vie de Sainte-Cécile, par Don Guéranger, la tradition nous dit que Procula, la femme de Pilate, s'est convertie du paganisme et qu'elle a fait une sainte mort. Donc on peut croire que ce songe était un songe venant de Dieu. Alors Pilate va se laver les mains, il ne tient pas compte de ce que lui dit sa femme. Il a été circonvenu par les Juifs, il a joué au plus malin, il a perdu et il s'en moque. Du reste, vous le savez, la vérité ne l'intéresse pas du tout. Il a répondu à Jésus comme d'un revers de main. Qu'est-ce que la vérité? La vérité ne l'intéresse pas, cette affaire désormais réglée, elle l'a assez ennuyé, il s'est assez compromis, il s'est assez ridiculisé. Alors il fait le fort et il se lave les mains. Eh bien, regardez Pilate se laver les mains. Il laisse Jésus-Christ à la solastesque et à la volonté des Juifs. Il va donc être crucifié. Il va être crucifié entre dollarons pour ajouter à l'ignominie. Et Jésus-Christ va être chargé de sa croix, comme tous les suppliciés étaient chargés de la croix sur laquelle ils allaient être soit cloués, soit attachés par les cordes. Il faut une croix d'une certaine dimension pour porter un homme et des planches d'une certaine épaisseur pour supporter un homme de combien? 80 kilos, 85 kilos peut-être. D'après l'Anselme de Turin, la taille de notre Seigneur est plus d'un mètre 80, vraiment un bel homme. 1m80, ça fait en principe au moins 80 kilos. Il faut une forte croix. Combien pèse-t-elle? Autant? Un peu moins? Un peu plus? C'est ça qui est mis sur les épaules meurtries de notre Seigneur, et n'allons pas imaginer une croix bien lisse, bien rabotée, non. Une croix anguleuse, une croix à écharde qui rentre dans la chair de Jésus. La chair déjà déchirée, tuméfiée, ensanglantée, percée même, car les fouets, vous le savez, étaient munis d'osselets, si bien que lorsque les bourreaux retiraient leurs fouets, ils arrachaient de la chair. Jésus-Christ est chargé de cette lourde croix et il va gravir le chemin du calvaire et nous savons qu'il tombe. Nous savons ce qui se passe par le chemin de la croix. Vous l'avez fait il y a quelques minutes en privé. Il est accompagné de deux larrons, de deux brigands, de deux hommes qui ont été accusés de crimes de droit commun et qui ont été condamnés à mort. Et ils vont donc subir le même supplice que Jésus. On représente, il est vrai, les deux larrons attachés à la croix, tandis que Jésus est cloué à la croix. Je ne connais pas d'études historiques qui prouve que les larrons ont été attachés et non pas cloués, car on clouait volontiers les suppliciés à la croix, plus qu'on les attachait, peu importe. Donc voyez le Seigneur portant sa croix sur le chemin du calvaire, entouré des gardes qui sont là pour assurer que tout se déroule normalement. Il ne faut pas qu'on vienne délivrer le condamné à mort. Il faut contenir la foule qui peut s'émouvoir ou s'exciter et qui s'excite, bien sûr, car les Juifs, les chefs des prêtres, les gardes du palais, le caïphe, ont fait tout ce qu'ils voulaient faire pour exciter, surexciter la foule contre Jésus. Et c'est une rumeur de rage, de colère, de haine qui entoure notre Seigneur, le Sacré-Cœur. On arrive au sommet du calvaire, sur le Golgotha, sur ce rocher qui a la forme de crâne, dans lequel sont percés des trous. C'est dans ces trous que sont plantées les croix. Elles tiennent debout dans ces trous creusé dans le rocher. Alors il faut assister à la crucifixion. C'est atroce. Il faut assister à cette opération qui consiste à attacher le supplicié à sa croix par des clous. Nous savons que les clous dans les mains de Jésus n'ont pas été plantés dans la paume des mains, car les mains se seraient déchirées très vite et le supplicié serait tombé à terre. Non, mais les clous ont traversée au niveau du poignet. Car là, il y a un canal, n'est-ce pas, où le clou peut passer entre des os. Et il touche des nerfs, la douleur est atroce, si bien que les doigts se referment comme ça. Alors, la main de Jésus est ainsi, on plante un coup là, et puis on le met en extension, on met son pied sur le bois de la croix, on tire sur l'autre bras, on cloue l'autre main. Comme ça, les doigts se referment, le sang gicle, et on fait pareil pour les pieds. Et le sang gicle, le précieux sang de Jésus gicle. Et pour assurer la force des clous, on les retourne. Or, la croix est par terre, le crucifié est sur le dos, le ventre par devant, on retourne sur le ventre et on tourne les clous pour s'assurer que les clous ne seront pas arrachés par le poids et par les tractions que fera le supplicié pour respirer. Une fois que cela est accompli, alors, on met le bout de la croix au niveau du trou creusé dans le rocher, avec des cordes, on tire, on pousse par devant et la croix tombe dans son trou. Sur les clous, le poids du corps, sur les clous, et qui déchire les membres, et qui blesse les pieds. Alors voilà Jésus, il est sur la croix. Avant qu'on ait mis la croix dans son trou, avant qu'on l'ait dressé, Jésus-Christ a eu cette parole extraordinaire. Pendant qu'on le clouait à la croix, pendant qu'il souffrait des douleurs atroces, parce que les nerfs étaient déchirés. Il dit, mon Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est sa première parole. Mon Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme il est bon, Jésus. Il pardonne à ses bourreaux, car il est sait. Il est ses serviteurs serviles d'une autorité criminelle. Ils ne sont pas conscients vraiment de ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils s'attaquent au Fils de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils font un acte matériellement déicide. Jésus-Christ leur attire des grâces de conversion, des grâces de pardon, comme il est pacifique dans sa crucifixion, comme il est bon, comme il est tendre dans ses douleurs inconcevables, inimaginables, inexprimables, inouïes. Voyez-le sur la croix. Eh bien, il va tenter de respirer, il va se redresser en tirant sur les bras, en poussant sur les jambes. C'est autant de respiration assurée, mais c'est autant de douleur de plus, et c'est autant de sang qui sort, qui gicle. Le précieux sang de Jésus coule sur la croix, coule sur le sol, c'est comme une sanctification de la terre. Sanctification du ciel et de la terre, car il est élevé de terre, il est comme dans le ciel. Et Jésus-Christ va prononcer sur la croix des paroles sur lesquelles il faut s'arrêter. Il est entouré de larrons, entouré des gardes, mais il y a aussi au pied de la croix sa mère, parce qu'elle est sa mère, alors elle a pu accéder au sommet du calvaire. Les gardes lui ont permis d'être là, c'est la proche famille. Il y a aussi sa tante, Marie-Salomé, la sœur de sa mère, c'est de la famille. Il y a aussi Marie-Madeleine, on se demande comment a-t-elle pu être admise à être là, mais elle a fait tout ce qu'elle a pu pour rester près de ce Jésus qu'elle aime par-dessus tout. Elle est là et c'est admirable. Et il y aura plus tard Joseph d'Arimathie, Nicodème, et il y aura où il y a déjà Saint Jean. Saint Jean, du reste, sera là avant la mort de Jésus. Et Saint Jean, lui aussi, a été admis parmi les familiers pour être près de Jésus. Jésus-Christ est entouré de larrons. On sait qu'il y a un bon larron et il y a un mauvais larron. Au début, les larrons vont se laisser entraîner par la foule qui vocifère contre Jésus, dirigée par les princes des prêtres, et ils vont tous les deux insulter Jésus. Tous les deux se moquer de Jésus, blasphémer Jésus, et c'est incroyable, parce qu'ils sont comme la même enseigne. Mais ils vont rentrer dans ce mouvement de colère et de haine satanique contre le Seigneur. Et puis, l'un des deux va se reprendre. Et il va reprocher à l'autre son comportement en lui disant, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Nous sommes là à cause de nos crimes, mais lui, qu'a-t-il fait? Et se tournant vers Jésus, il lui dit, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre paradis. Et Jésus le récompense en lui disant, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Certes, il ne s'agit pas du paradis des élus, il n'est pas encore ouvert. Il fallait attendre l'ascension pour qu'il fût ouvert. Il s'agit des limbes des saints de l'Ancien Testament, des limbes des pères de l'Ancien Testament, où se trouvent Adam, Ève, Moïse, Abraham, Saint Joseph. Oui, après sa mort, l'âme de Jésus va descendre aux limbes, mais là où est Jésus, c'est le paradis. Et donc, en effet, ce soir-là, le bon larron sera au paradis. Son âme sera près de Jésus. Et saint Augustin nous commentait ce passage en disant, il y a autour de Jésus deux larrons, deux criminels, l'un se sauve et l'autre semble se damner. Ne saisissant pas la grâce qui lui est offerte à cet instant ultime. D'ajouter, le bon larron a été un voleur toute sa vie, jusqu'à la fin, il vole son salut. Mais, ajoute-t-il, s'il y a un bon larron à côté de Jésus qui se sauve in extremis, c'est pour que jamais nous ne désespérions de la grâce de Jésus, mais il ne faut pas être présomptueux, téméraire. Il ne faut pas tenter Dieu, car à remettre plus tard son salut, on peut faire comme le mauvais larron et ne jamais saisir la grâce, même à l'instant de sa mort. Il y a au pied de la croix, je vous l'ai dit, la Vierge Marie, et Saint Jean et Marie-Madeleine. C'était inimaginable que Marie ne pût pas être là en cet instant. Elle qui avait tout accepté par avance en disant « Fiat et ancilla Domini » lors de l'Annonciation, il convenait qu'elle fût là pour assister son fils à son départ, à sa mort. Elle n'était pas là, comme vous l'a dit hier, au repas du Jeudi Saint. Elle n'a pas assisté à la messe du Jeudi Saint. Elle n'a pas communié à cette messe, mais elle est là, au pied de la croix. Elle a même retrouvé son fils sur le chemin du calvaire. Elle a gravi avec lui les quelques centaines de mètres qui le conduisaient à ce lieu de supplice. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Marie va se montrer d'une force, d'une dignité extraordinaire. Stabat mater dolorosa. Et la mère pleurait debout. Elle se tenait debout au pied de la croix où agonisait son fils. On se demandait ce que signifiaient ces mots. Marie pleurait. Et la liturgie dit que sa douleur est grande comme la mer, que ses larmes sont immenses comme l'océan. Cela ne veut pas dire forcément que Marie pleurait des larmes, mais elle pleurait dans son cœur, et l'on peut pleurer dans son cœur de douleurs plus profondes qu'une douleur qui nous fait pleurer des larmes d'eau. La douleur de Marie est sans doute plus grande encore en pleurant dans son cœur que si elle pleurait à l'extérieur. Du reste, Marie est une femme forte et infiniment discrète. Elle devait, comme son fils, souffrir sans consolation, sans soulagement, sans apaisement. Or, vous savez que les larmes soulagent, les larmes apaisent, les larmes peuvent même consoler. Donc, il est vraisemblable que Marie souffre tellement, elle est conduite par la grâce et par sa compassion, par sa communion, à un degré tel de souffrance qu'elle pleure intérieurement, sans consolation, sans soulagement. Abraham a dû sacrifier son fils, mais il a eu la consolation de ne pas tuer son fils. Dans le livre des Maccabées, on nous parle d'une mère qui conduit ses fils au martyr, et puis elle-même ensuite est martyrisée. Abraham eut la consolation de ne pas mettre à mort son fils physiquement, qu'il avait mis à mort dans son cœur. Cette mère a eu le soulagement, après les tortures qu'ont subies ses fils, de disparaître elle-même. Marie ne meurt pas au pied de la croix. Elle souffre sans consolation, et cela mérite vraiment d'être considéré. Jésus va s'adresser à elle et à Saint Jean. Remarquons-le, Marie ne peut faire aucun geste pour son fils. Un garde va lui porter une éponge de vinaigre pour calmer ses douleurs. Précédemment, Sainte Véronique avait traversé la foule courageusement pour essuyer la face de Jésus, lui rendre un aspect humain. Marie ne peut rien faire. Elle est comme privée de la consolation, du soulagement, et elle ne dit pas mot à son fils. Tout se passe dans le silence du cœur à cœur, hormis cette parole de Jésus. Jésus la regarde. Il regarde Saint Jean et il dit à sa mère, en lui présentant Saint Jean, « Voici votre fils. » Et à Saint Jean, en lui présentant sa mère, « Voici votre mère. » Jésus, qui va partir, ne veut pas laisser sa mère seule. Saint Joseph est déjà mort. Alors il va la confier à l'apôtre qu'il aime particulièrement, à l'apôtre vierge, jeune prêtre et même évêque depuis quelques heures. Il va la confier à Saint Jean. Et Saint Jean, l'apôtre pur, va prendre Marie chez lui. Et Saint Jean célébrera la messe devant Marie, et elle communiera des mains de Saint Jean, et elle assistera ainsi par la messe continuellement au sacrifice du calvaire. Et Saint Jean nous représente tous, enfin Saint Jean précisément, représente les élus. Puissions-nous être de cela, et si nous sommes de cela, alors Jésus-Christ nous a vraiment donné à Marie, sa mère. Comportons-nous de toute manière, comportons-nous comme des fils de Marie. Sachons être de bons fils de cette mère qui nous a enfantés dans la douleur. Il n'y a pas de maternité sans douleur. Marie nous enfante spirituellement dans des douleurs inimaginables, les douleurs de sa compassion, de sa communion à la passion de son fils. Communion comme il n'y en a pas eu ce jour-là, comme il n'y en aura jamais jusqu'à la fin du monde, en raison de la proximité singulière et unique qu'il y a entre Jésus et sa mère. Elle communie autant qu'il est possible par le don de Dieu à la passion de son fils. Elle nous engendre dans des douleurs incommensurables, inouï, inexprimable. Marie, au pied de la croix, est admirable, Stabat Mater, comme elle est aimable au pied de la croix, elle qui nous enfante dans de telles douleurs. Jésus va se sentir abandonné. Il va l'exprimer en cette parole, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est le début du psaume 21. Et Jésus-Christ, semble-t-il, récite tout ce psaume. Il est comme abandonné de Dieu. Il est comme abandonné de son Père. Du reste, il ne dit pas mon Père, justement, il dit mon Dieu. Comme s'il n'était plus fils du Père. Comme si Dieu s'était séparé de lui. Comme si Dieu s'était écarté de lui et l'avait abandonné. En réalité, il était impossible que Dieu abandonnât Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu. Il était impossible que Dieu abandonnât Jésus-Christ homme, parce que Jésus-Christ homme est parfaitement saint, parfaitement uni à Dieu. Alors pourquoi ces paroles? Certains ont voulu voir là une expression de désespoir, apsite, blasphème, impossible. Mais Jésus-Christ a connu comme l'abandon de Dieu, parce qu'il a pris le péché sur lui, il a pris tout péché sur lui, tous les péchés depuis le péché originel jusqu'à la fin du monde sur lui, et Dieu a horreur du péché, Dieu repousse le péché. Et Jésus-Christ a comme ressenti ce rejet du péché. C'est comme s'il s'était fait pécheur pour nous. Il dira, j'ai soif, sit sio, j'ai soif, oui. Le supplice qu'il endure est un supplice qui dessèche, qui brûle. Les suppliciés connaissaient là la torture de la soif. Et alors, les soldats ne vont pas les altérer. Ils vont lui offrir un vinaigre pour qu'il souffre moins, pour qu'il perde conscience. Enfin, c'est un mélange avec du vinaigre, une sorte de narcotique, pour que le supplicié souffre moins. Et Jésus-Christ va laisser l'éponge atteindre ses lèvres, mais il ne boira pas, parce qu'il ne veut pas diminuer ses souffrances. Il veut aller jusqu'au bout. J'ai soif. Et je reviens un peu en arrière, excusez-moi. Lorsque Jésus-Christ appelait Élie, on se moquait de lui. Voyons si Élie va le délivrer. Lui qui s'est dit fils de Dieu, disent-ils du bas, et les soldats aussi le disent. Qu'Élie vienne le délivrer, qu'il descende la croix et nous croirons en lui. Les Juifs ne voulaient pas d'un Messie crucifié. Ils ne veulent pas de la croix, ils n'en voulaient pas, ils n'en veulent pas plus aujourd'hui. Ne soyons pas, nous, les ennemis de la croix de Jésus, notre Christ, notre Sauveur est crucifié. J'ai soif, dit-il, sit sio. J'ai soif. Et en effet, donc, le supplice qu'il subit là dessèche le palais, brûle la gorge. Et les suppliciés souffrent terriblement, donc, de la soif ardente, desséchante, consumante. Oui, mais Jésus a surtout soif de nos âmes. Il a surtout soif de notre sainteté, de notre salut, je dirais même de nos bonnes résolutions. La passion de Jésus se continue jusqu'à la fin du monde, dit un auteur. Donc Jésus a soif jusqu'à la fin du monde. Sachons le désaltérer par notre bonne volonté, notre perfection, notre sainteté, notre marche vers la sainteté. Et tout cela se passe dans de grandes ténèbres, car les ténèbres ont frappé ce lieu et une partie de la terre depuis, dit l'Évangile, la sixième jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire depuis midi. Depuis midi, Jésus-Christ étant arrivé au calvaire vers 10 heures, à partir de midi, les ténèbres se font sur la surface de Jérusalem. Et cela marque tous ceux qui sont là, car cette arrivée de la nuit en plein jour est surprenante, elle est miraculeuse. Jésus-Christ va comme mourir dans le noir, dans la nuit. Alors, il va ajouter une parole. Maintenant qu'il a demandé le pardon de ses bourreaux, maintenant qu'il a donné Saint-Jean à Notre-Dame, maintenant qu'il a fait Notre-Dame mère spirituelle de nos âmes, maintenant qu'il a assuré le salut du bon larron, maintenant qu'il a dit qu'il avait soif et qu'il nous a appelés à le désaltérer, alors il va dire, tout est consommé, consummatum est, j'ai tout accompli. Oui, Jésus-Christ a vraiment tout accompli. Toute justice est satisfaite. Il avait dit à Saint Jean-Baptiste qui hésitait à le baptiser. Non, l'avait-il dit, baptisez-moi, il faut que toute justice s'accomplisse. Oui, nous y sommes. L'heure est venue. Il avait dit aux noces de Cana à sa mère qui le priait pour qu'il vienne au secours des gens de la noce en lui disant, ils n'ont plus de vin. Il avait dit, mon heure n'est pas encore venue. Nous y sommes, l'heure est venue, tout est accompli. Il a réalisé tout ce qu'il fallait, il lui reste plus qu'à mourir, aller jusqu'au bout, c'est l'extrême de l'amour. Au soir du jeudi saint, nous dit Saint Jean, Jésus-Christ, et qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, in finem, dit l'exitéos, jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Jusqu'au bout du possible. Jésus-Christ ne pouvait pas faire plus, tout Dieu qu'il est en tant qu'homme. La créature humaine est limitée, même en Jésus-Christ, il ne pouvait pas faire plus. Et ce plus, ce bout, au-delà duquel il n'y a rien d'autre, c'est le don de soi dans la mort. Alors il va achever par sa mort. Et il va prononcer ces paroles. Mon Père, non plus mon Dieu, mon Père, car tout se réunit, mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Juste avant cela, il a poussé un formidable cri. Ce cri qui va tant toucher le bon centurion qui le garde en bas. Après donc ce cri, mon Père, je remets mon esprit entre vos mains, inclinant la tête, il leur rend l'esprit. Il meurt. Il meurt parce qu'il a voulu. Il meurt quand il a voulu. Et qu'est-ce qu'est cet esprit que Jésus remet à son Père? C'est sa mort que cela signifie certainement. Mais l'esprit de Jésus-Christ en tant qu'esprit, l'âme de Jésus-Christ, était toujours unie au Père. Donc, il ne pouvait pas la rendre, car elle n'avait jamais été séparée du Père. Il n'avait jamais prise au Père. Alors, que signifie cet esprit qu'il rend? Eh bien, Jésus-Christ a dit ce que cela signifiait à Sainte Catherine de Sienne. Il a dit, cet esprit que j'ai remis à mon Père, c'est l'ensemble des élus. L'ensemble des élus. Souhaitons être de ce nombre-là, souhaitons être dans l'esprit que Jésus a remis à son Père. Il est mort, et vous savez que la terre tremble, que des cercueils, des sépulcres s'ouvrent, et que des morts vont ressusciter et vont se promener dans Jérusalem. Et des foules vont quitter le calvaire, pas tous, mais beaucoup, en se frappant la poitrine. Ils vont être beaucoup comme le bon centurion qui dira vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. C'est la veille du sabbat. Les corps d'ordinaire resté en croix jusqu'à ce qu'il meure. Et après, on les descendait et on les mettait dans des fosses, de côté. Mais c'est le sabbat, jour saint chez les juifs, et vous savez que désormais, le sabbat n'a plus aucune valeur, les sacrifices juifs n'ont plus aucune valeur, dont le culte juif n'a plus de valeur, plus du tout. C'est devenu comme une superstition. Oui, mais c'est le sabbat. Et il ne convient pas que des corps des suppliciés restent sur les croix. Ils étaient d'ailleurs la pâture des oiseaux sauvages, peut-être même des chacals, voire des loups qui pouvaient traîner dans les parages, venant la nuit rôder chercher leur pâture. Alors, comme c'est le sabbat, eh bien, on ne va pas laisser les corps en croix. Et les Juifs le savent très bien, mais les amis de Jésus aussi le savent très bien. Alors voilà que va intervenir Joseph d'Arimathie, cet homme du Sanhédrin qui n'avait pas donné son accord à la perfidie et la cruauté des autres, mais qui était resté discret. Et il va courageusement, il fallait du courage en ce soir du Vendredi Saint, pour se dire ami de Jésus. Il va courageusement demander à Pilate qu'on lui remette le corps de Jésus. Et Pilate va être étonné que Jésus soit déjà mort, car les suppliciés mourraient au bout de quelques jours. N'est-ce pas ? La vie diminuait lentement, 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 et enfin il mourait. Et Jésus-Christ est mort quand il le fallait, comme vous le savez. Pilate est étonné. Et il va donc demander qu'on s'assure qu'il est mort, si bien que les gardes vont s'approcher des suppliciés. On va, de toute façon, il ne faut pas les laisser là. Donc on va hâter leur mort s'ils ne sont pas morts. Alors on va casser les jambes des larrons pour hâter leur mort. La respiration est terminée, ils ne pourront plus se soulever sur leurs pieds pour respirer. Ils perdront leur sang, la syncope, la mort. Arrivant à Jésus, le soldat de service voit qu'il est déjà mort. Et pour ne pas se tromper, il va lui percer le côté de sa lance. Voyez ça. On perce le cœur de Jésus. On traverse par le côté droit. On atteint donc le lobe du cœur légèrement à gauche. Et nous dit Saint Jean, témoin, Saint Jean est là, qui regarde, qui adore. Et Saint Jean nous dit qu'il sortit aussitôt du sang et de l'eau, deux liquides séparés, non pas mélangés, du sang et de l'eau. L'Église naît du côté percé de Jésus. Le sang, c'est l'Eucharistie, l'eau, c'est l'eau du baptême. Le baptême est le premier des sept sacrements. L'Eucharistie est le plus grand des sept sacrements. Avec le baptême et l'Eucharistie, on a fait le tour de la vie sacramentelle. Et le cœur de Jésus, percé par la lance, va rester ouvert. Car Jésus est mort depuis quelque temps déjà. Alors, les chairs n'ont plus de mouvement. Elles sont ouvertes, elles restent ouvertes. Elles ne se refermeront pas. Cela signifie que le cœur de Jésus reste ouvert. C'est le Sacré-Cœur qui veut que nous rentrions dans son amour. Ceci fait, Joseph peut prendre le corps de Jésus. Il y a aussi Nicodème, en plus de Marie, en plus de Saint-Jean, de Marie-Salomé, la sœur de Marie, en plus de Marie-Madeleine, en plus de Joseph d'Arimathie, il y a Nicodème. Ah, le brave Nicodème. Nicodème, c'est celui, rappelez-vous, qui avait demandé à Jésus une audience en secret, discrètement, pour ne pas être vu de la foule et de personne. C'était en pleine nuit. Et Jésus, dans sa bonté, lui avait accordé cette audience en pleine nuit. Jésus-Christ avait révélé à Nicodème qu'il fallait renaître de l'eau et de l'esprit pour vivre dans le royaume. Il est là. Il est là, ce cher Nicodème, et il va s'occuper de descendre avec saint Jean le corps de Jésus. C'est la descente de la croix. Assister à la descente de la croix. C'est un acte religieux, bien sûr, car le corps de Jésus, qui a perdu tout son sang, qui est exsangue, le corps de Jésus qui n'est plus animé par l'âme de Jésus, cette âme est partie au limbe. Le corps de Jésus reste uni à la divinité. Donc, il reste adorable. La descente de la croix est comme un acte liturgique, un acte de religion, un acte religieux. Il faut des outils, il faut une échelle pour monter jusqu'à la barre transversale, il faut un pied de biche pour détordre la pointe des clous, retourner par derrière. Il faut un marteau pour taper sur la pointe et sortir le clou du côté des mains et des pieds. Il faut des tenailles pour arracher les clous. Eh bien, saint Jean, Nicodème et Joseph s'acquittent cette tâche. On commence par les pieds et puis par on atteint une main. Alors, une fois que le clou est tiré d'une main, on maintient ce côté-ci, puis on va à l'autre main et on descend délicatement le corps de Jésus. Joseph avait acheté un linceul, tout neuf, on enveloppe là le corps de Jésus. Et avant cela, il est remis à sa mère. Eh bien, vous contemplez la piété. Jésus reçoit dans Marie, reçoit dans ses bras celui qu'elle avait mis au monde il y a quelques 33 années. Elle reçoit dans ses bras celui qu'elle avait porté dans ses bras petit bébé. Et du reste, à l'époque, elle avait vu la trace que feraient les clous dans ses mains et dans ses pieds. Elle avait vu la trace que la couronne d'épines ferait dans sa tête, car elle connaissait les Écritures. Et maintenant, c'est chose faite. Elle a dans ses bras le corps adorable de son fils, corps sans vie, corps vidé de son sang, corps maculé par les taches de sang séché, corps déchiré par les fouets de la flagellation, corps percé par les clous, visage percé par le casque d'épines et qui avait été enfoncé par les soldats. Elle regarde son fils qu'elle a dans ses bras. Et regardez Jésus et Marie. Faites comme saint Jean. Faites comme Marie-Madeleine. Mais on ne peut rester là. C'est le sabbat qui approche. Il faut déposer Jésus-Christ dans le sépulcre. Alors, on l'enveloppe dans le linceul après quelques soins. Nicodème avait apporté des aromates autant qu'il avait pu. On fait ça vite parce que le temps presse. On fait un peu de toilette. On met quelques baumes sous le corps de Jésus, on l'enveloppe dans le linceul et on le dépose au sépulcre. Eh bien, nous allons revoir tout ça, vous allez revoir tout ça dans votre contemplation à la chapelle. N'est-ce pas? Jésus-Christ, ecce homo, présenté au juif par Pilate, qui demande sa crucifixion. Pilate qui craint Jésus par superstition, qui le craint plus encore que raison politique. Pilate qui va tout lâcher, qui va se laver les mains malgré la visite de sa femme Pocula, qui va livrer Jésus à la volonté des Juifs, qui va le faire crucifier. Repensez aux paroles de Jésus. À ses bourreaux, il demande pardon. Au bon larron, qu'il promet de retrouver en paradis. À sa mère, à qui il donne saint Jean, à saint Jean, à qui il donne sa mère. Regarde, écoutez-le Et quand il exprime cette sorte d'abandon dans laquelle son père le laisse, écoutez-le quand il dit que tout est consommé, il a tout accompli. Entendez son cri. Cri qui signifie sa puissance, sa divinité. Écoutez ce sifflement, cette parole douce, mon père, je remets mon esprit entre vos mains, voyez-le mourir et assister à la descente de croix et recevez-le entre vos mains comme Marie l'a reçu.
Voilà, nous allons écouter Monsieur l'abbé Jean-Paul André.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers jeunes prêtres, chers confrères plus anciens dans le sacerdoce, chers séminaristes qui l'entouraient, chères sœurs, bien chers fidèles, c'est pour nous tous une profonde joie d'être ici, entourant l'autel et entourant ce jeune prêtre qui célèbre une messe solennelle. Et vous comprendrez que pour le prêtre qui vous parle en ce moment, c'est une joie particulière et c'est même une très grande émotion. Car ce jeune prêtre a été séminariste chez nous à Favigny et, dois-je le dire, il s'est toujours caractérisé par sa docilité, sa discipline, son amabilité, sa serviabilité, sa piété. Un directeur de séminaire aime tous ses séminaristes, mais il peut en aimer certains particulièrement pour des raisons particulières. Dois-je dire alors que nous avons aimé l'abbé Onoda en particulier parce qu'il venait de loin, parce qu'il avait tout quitté, son pays et une culture différente de la nôtre pour se donner au bon Dieu afin de devenir, si à l'époque Dieu voulait et Dieu l'a voulu, un prêtre de Jésus-Christ. Et je me rappelle, je peux le dire ici sans indiscrétion, et je me rappelle que Monsieur Thomas Onoda est arrivé à Favigny un peu en retard en raison de difficultés administratives et en raison des opportunités de voyage. Il est arrivé à la fin du premier trimestre, au mois de décembre, un peu avant Noël, si bien qu'il a dû rester au séminaire pendant les vacances pour s'adapter à sa nouvelle maison et pour essayer de rattraper le retard des cours. Et monsieur, c'était à l'époque, monsieur Thomas Onoda nous a frappés par sa facilité d'adaptation. En quelques semaines, on aurait dit qu'il avait depuis toujours été chez nous. Et ce qui nous frappait beaucoup et ce qui nous touchait et nous amusait aussi, c'était sa politesse exquise venant d'Orient. Il avait déjà un très grand respect du sacerdoce et il est manifesté par ses saluts très japonais, n'est-ce pas? Et nous comprenions tout ce que cela signifiait de vénération, de respect pour le sacerdoce. Et outre cela que nous apprécions beaucoup, nous aimions ces salutations si esquises. Comment caractériser la cérémonie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lui donner des qualificatifs? Il me semble qu'on peut l'appeler une reconnaissance, une victoire, un encouragement et enfin une espérance. Oui, la messe d'aujourd'hui, ici, est une reconnaissance. Reconnaissance que notre jeune prêtre a pour cette maison de Caussade qu'il aime beaucoup et dans laquelle il a suivi et même prêché en tant que diacre l'exercice de Saint Ignace de Loyola. Et on pourrait dire alors que cette messe est célébrée en l'honneur de Saint François Xavier. Elle lui serait comme dédiée. Oui, notre jeune prêtre vient du Japon et Saint François Xavier, comme cela vous a été rappelé il y a un instant, est l'apôtre des Indes et du Japon. Et il se fait que le sous-diacre vient des Indes. Raison de plus de dédier cette messe à ce grand convertisseur d'âme, infatigable missionnaire de Jésus-Christ. Messe de reconnaissance aussi pour celui, pour le prêtre, pour le missionnaire français des missions étrangères de Paris qui a donné le baptême à notre jeune prêtre. Et je ne crois pas être indiscret en disant que, à l'époque, M. Thomas Onoda, à l'époque de son baptême, avait 15-16 ans. Oui, et c'est un miracle de la bonté de Dieu, un miracle de Jésus-Christ. Oui, l'abbé Onoda est né dans une famille, on pourrait dire, sans irrespect pour ses parents, païennes. Et frappé par la grâce l'a conduit à chercher la vérité de la religion. Il a cherché quelle était la véritable religion et il l'a découverte par la grâce et par ses études. Il a découvert que cette la religion catholique et alors il a décidé de se faire catholique. Et ainsi est-il allé voir un prêtre catholique et ce prêtre lui a donné le catéchisme et l'a baptisé. Et ce prêtre est mort il y a 2 ans tout près d'ici. Cette messe vraiment est une messe de reconnaissance. Et sans doute, si l'abbé Onoda s'est rendu plusieurs fois à Caussade, c'était en raison aussi de ce missionnaire qui lui avait donné la vie surnaturelle et qui était rentré en France. Prions donc pour ce baptiseur de notre jeune prêtre. Cette cérémonie est aussi une victoire. Une victoire de Jésus-Christ, et je dirais même une revanche. Revanche du Seigneur, prêtre et victime. Oui, le Japon est appelé le pays de l'Orient, le pays du soleil levant. Et pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Pour 2 raisons. Les Chinois l'appellent ainsi parce que les Chinois se croyaient le centre du monde. Et le Japon, c'était le pays, cet ensemble d'îles desquelles le soleil semblait se lever. Et aussi parce que les navigateurs d'Europe, pendant très longtemps, ont été arrêtés comme par une barrière. Celle du Japon, c'était l'Est, au-delà duquel il n'y avait peut-être rien. Le pays du soleil levant, le pays de la limite de l'Est. Eh bien, je dirais que cette messe et l'ordination toute récente qui l'a permise sont comme une revanche de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le soleil véritable, le soleil de justice, l'Orient même. On le chante dans les antiennes du temps de l'Avent, au Oriens, au Orient. Jésus-Christ, c'est l'Orient. C'est la lumière qui s'est levée sur le monde, le soleil qui a resplendi pour illuminer et réchauffer la terre, illuminer, réchauffer l'humanité par sa prédication, par la rédemption, par la grâce dont il est la source. Et la victoire, c'est justement que dans ce pays du soleil levant, pour appeler ainsi, pour des raisons de domination politique supposée par la Chine, ou par accident dû à la difficulté des navigateurs, victoire parce que de ce pays vient de sortir un prêtre de Jésus-Christ. Un fruit magnifique, un fruit, je dirais, succulent, au sens spirituel des mots du soleil de justice qu'est Jésus-Christ. Et ça, c'est une victoire. Premier prêtre de la tradition, je dirais, ressuscité comme ressuscité dans l'Église, revanche de Jésus-Christ sur le paganisme, sur le matérialisme. Cette messe est aussi un encouragement. Un encouragement pour vous, fidèles, qui aimez le sacerdoce et qui avez compris l'importance et la nécessité du sacerdoce. Et votre présence ici nombreuse l'exprime chaleureusement, disons même éloquemment. Encouragement aussi pour les jeunes, que Dieu a de toute éternité choisi pour qu'ils deviennent ses prêtres, afin qu'eux aussi, comme notre jeune prêtre, soient capables de tout quitter pour répondre à cet appel, quitter sa famille. Oui, quand on vient de loin, cela n'est pas rien de quitter sa famille. Quitter son pays, oui, quand on est né dans un pays d'une toute autre culture, même si elle est subtile, ce n'est pas rien de quitter son pays, et on aime encore son pays, je me rappelle. Et je ne pense pas être non plus indiscret en disant ici, je me rappelle d'un pèlerinage du séminaire à Montmartre. L'abbé Onoda avait emporté avec lui son drapeau japonais. Et il le montrait avec ce sourire que nous apprécions tant. Et nous aimions le voir avec ce drapeau. Et nous comprenions, n'est-ce pas, qu'il apporte lui-même tant d'importance à montrer ce drapeau, une vocation du Japon. Donc, que cela encourage les jeunes gens à répondre à l'appel de Jésus-Christ, être prêt à tout quitter pour se donner, pour se consacré pour devenir prêtre du Très-Haut Soleil, du soleil levant véritable. Enfin, cette messe est une espérance. Une espérance de conversion. Une espérance de salut. Oui, notre jeune confrère, dans quelques semaines, avant même le 15 août, va rejoindre son lieu de ministère, lieu qui lui a été assigné par la Providence, à travers ses supérieurs, à travers notre supérieur général. Il va partir aux Philippines. Ce sera son lieu de résidence et de là il ira en Corée et il ira aussi au Japon et c'est bien normal. L'espérance se lève donc sur ces pays Un prêtre va leur apporter la vérité, leur apporter la grâce, et il se fait que la providence est délicate, et il se fait que les lectures de cette messe sont parfaitement adaptées à cette espérance que vous représentez, chers jeunes confrères. Saint Paul, dans l'Évangile, nous parle du baptême. Il nous parle de la renaissance en Jésus-Christ, de la fuite du péché, de l'écartement du péché, et donc de la force contre le péché. Il nous parle de la pénitence, il nous parle de la confirmation, le baptême, la pénitence, la confirmation, les trois sacrements que tout fils de l'Église reçoit en principe. Et l'Évangile nous parle de l'Eucharistie, le plus grand des sept sacrements. Et le prêtre est fait pour consacrer l'Eucharistie. Le prêtre est fait pour célébrer la messe. Miséreor super turbam, disait Jésus-Christ sur cette foule qui l'avait écouté, qui avait été pendue comme à sa bouche pendant 3 jours sans rien prendre. Jésus-Christ les a tellement conquis, enthousiasmés, remplis, nourris, qu'ils en ont oublié de nourrir leur corps, mais il faut bien se quitter. Et le Seigneur, bon pasteur, ce dimanche, c'est comme un nouveau dimanche du bon pasteur. Le Seigneur, bon pasteur, ne veut pas les renvoyer à jeun. Il va pour eux faire un miracle. Il va multiplier 7 pains comme il y a 7 sacrements. Il va tous les nourrir. 4000 hommes, sans compter, comme toujours, les femmes et les enfants. Il restera 7 corbeilles, comme il y a 7 sacrements. Et évidemment, ce miracle annonçait la Sainte Eucharistie. Et les poissons qui sont eux aussi multipliés, annonçaient le baptême, parce que les poissons vivent dans l'eau, et qu'on renaît de l'eau. Du baptême. Oui, c'est une espérance que vous représentez, chers confrères, pour ces pays-là. C'est un don du bon pasteur, un don du Sacré-Cœur qui est fait à ces populations. Quand on pense qu'au Japon, il y a 0,3% de catholiques, de baptisés. On ne compte pas le pourcentage encore bien plus petit de traditionalistes. Alors quelle espérance en effet pour ce pays qu'un jeune prêtre lui soit envoyé pour gagner au Christ le plus grand nombre d'âmes possible. Alors, cher monsieur l'abbé, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité. Partez. Partez avec la Vierge du 15 août, car vous serez pour le 15 août aux Philippines. Partez avec la Vierge de l'Assomption. Partez guidé, conduit par votre ange gardien, comme Tobie l'a été par Raphaël, votre ange gardien. Il reste votre guide, vous restez son protégé, et cependant vous lui êtes devenu comme supérieur, et il le sait. Et l'ange ne sera pas dans la contradiction, il vous respectera comme prêtre, car en tant que tel vous le dépassez, et il continuera à vous guider. Nous le prions pour qu'il vous guide. Allez aussi avec la Vierge Marie, la Reine du Sacerdoce, Notre-Dame de la Sainte Eucharistie, on peut dire aussi Notre-Dame de la Sainte Messe, que par elle, que pour elle, vous gagnez beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. C'est la grâce que nous vous souhaitons de tout notre cœur, les fidèles, les confrères, celui qui vous parle, au nom de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.